Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI en cette fin d'après-midi d'hiver, désormais horaire d'hiver en France et hiver aussi par la fenêtre. Pour évoquer aujourd'hui dans cette émission, eh bien, la loi du plus fort qui a dominé les classico ou classiques du week-end, le Barça a infligé au très pâle Real une véritable gifle. Comprenez la manita, ses cinq doigts symbolisant ses cinq buts encaissés. Les Blaugrana ont brillé dans le sillage de Luis Suarez, auteur d'un triplé, alors que les Merengues sombraient, soulevant bien des interrogations au-delà du remplacement prochain de leur entraîneur Julen Lopetegui, au bilan catastrophique. Le PSG victorieux à Marseille, mais sur sa pelouse du Vélodrome, l'OM aura résisté un long moment avant de craquer, notamment sur un fait de jeu qui a anéanti ses espoirs de retour au score. Alors que les Parisiens établissaient un nouveau record, 11 victoires consécutives en championnat, record européen. Mais cette confrontation entre les deux clubs a-t-elle perdu de son intérêt? L'OM peut-il vraiment devenir le dauphin du Paris Saint-Germain? Et la punition de Kylian Mbappé est-elle anecdotique? Sur le podium de la Ligue 1 en France, en tout cas, eh bien Lille est toujours bien accrochée à la deuxième place, Montpellier à la troisième, deux équipes qui surprennent agréablement et nous en parlerons notamment avec vous, Cindy Colmenares. Bonjour.
Bonjour à tous, ravie d'être là.
Consoeur vénézuélienne à cette table. Après, nous avons eh bien un Olympien qui est en deuil aujourd'hui, Mathilde dit avant le début de l'émission.
Bonsoir Annie.
Bonsoir Marc.
Bonsoir à tous. Mais non, ça va, il y a plus grave, c'est pas grave.
On va essayer de vous réveiller. Nabil Djellit, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous allez bien?
Écoutez, mieux que les supporters de l'Olympique de Marseille et que ceux du Real Madrid.
Et voilà.
Ça donc fait du monde.
On va compatir aujourd'hui. Bonjour Hugo Moissonnier.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Radio Foot, c'est parti.
Ser va Jordi Alba para el primero, espera Lucho, va Jordi Alba y pega y mete el centro, gol de Coutinho, gol. Penal para el Barça, hay penal para el Barça, el VAR apareció en el clásico, Suárez, gol. Va Lucas Vázquez para Isco para descontar, metió el centro, la busca Marcelo para el descuento, Marcelo, gol. Sergi Roberto lucha, gol del killer, del asesino, del animal, del gol de Lucho Suárez. Va por el triplete, Lucho defina que está. ¡Gol! ¡Qué gol! Va Dembélé, buscar un buen centro para Lucho Suárez. Va Dembélé, el centro para Arturo, está.
Et de 6 buts, la manita, les 5 buts infligés au Real Madrid par le FC Barcelone hier après-midi font les délices de cette presse sportive d'Espagne. Aujourd'hui, les pro-Barça comme Mudo Deportivo évoquent une main létale, une main mortelle, une autre manita historique pour ces sports, référence à celle encaissée il y a plusieurs années du temps de José Mourinho. Et puis les pro-Real estiment, comme Marca, que la faute n'est pas seulement celle de l'entraîneur. Dans cette humiliante manita, hein, dans ce score humiliant de 5-1 d'un Barça sans Messi. Ce match qui s'est donc disputé pour la première fois depuis bien longtemps, sans Messi ni Cristiano Ronaldo, a-t-il été cependant un bon match, Cindy?
Je trouve que c'était un excellent match. En tout cas, pas du Real Madrid, bien évidemment.
Mais non, en mais un tout match cas, disputé. Avec,
c'était un match disputé. Et ce qui est quand même incroyable, c'est une équipe du Real Madrid qui sort dans les camps, donc joue pendant 65 minutes et joue sans âme. Donc déjà, ça, c'est un inconvénient assez grave. Ensuite, on a en face un Barça qui en veut, qui a démontré que malgré les faits qu'il n'y en avait pas Messi, parce qu'on en parlait tous les temps, est quand même... peut donner quelque chose d'assez agressif, surtout en se basant sur Suarez, qui a été très fort également dans les duels et qui a un mental assez énorme.
Et qui a fait le spectacle finalement.
Et qui a fait les spectacles.
Pour une grande partie. Marc, est-ce que ça reste un match spectaculaire, même quand, alors on le répétait, depuis 2007, il n'y a pas deux stars qui sont Messi et Cristiano Ronaldo, l'un blessé, l'autre parti.
Certes, ils ne sont pas là, mais il y a quand même de très grands joueurs sur le terrain. Après, sur ce match-là, on peut avoir beaucoup de regrets sur l'occasion de Benzema qui met cette tête au-dessus à la 62 ou 63e. C'est-à-dire que là, ils peuvent revenir à 2-2 et c'est peut-être plus le même match. Il y a eu un changement de tactique avec la sortie de Varane, l'entrée de Vasquez. Ça a un petit peu tout modifié. Une défense à 3 à côté Madrid. Et là, ils ont commencé à perturber le Barça. Et si Benzema marque, même Ramos a une tête plongeante juste un petit peu avant, si Benzema met ça là, on est à 2-2. On est peut-être dans une autre configuration de match. Malheureusement, ils marquent pas. Et 10 minutes après, ils se font punir. Après, en étant à 3, ils partent à l'abordage. Comme on parlera de Marseille qui jouait en défense, ils ont pris ce but là pour le deuxième étant anecdotique, mais on est quand même passé pas loin que le Real puisse faire quelque chose, puisque le changement a eu lieu à la mi-temps, puisque Varane, alors blessure ou pas, diplomatique ou pas, on ne sait pas, en tout cas le changement a eu lieu, et en seconde période, le Real Madrid démarre avec d'autres intentions, et c'est ça, c'était très intéressant. Malheureusement, ça n'a pas suffi, parce qu'un grand Suarez était là.
Il y avait beaucoup d'espace également, hein. Tout cas du côté du Real Madrid, donc c'était pas très difficile pour les Barça venir éclater, dynamiser la défense.
Surtout à la fin.
Et oui, évidemment, et je me dis, en fait, de toute façon, Coutinho, il a fait qu'un festin avec Nacho, enfin vous voyez bien qu'il s'était complètement débordé et qu'avec Messi ou sans Messi, finalement les Barça a réussi à prendre une indépendance qu'on attendait en fait depuis la Ligue des Champions.
Sur un match.
Oui, mais on attendait ça. Vous avez vu ce qu'ils ont fait en local, les Real Madrid déjà.
On va y venir sur les prestations de chacun, mais là sur l'ensemble du match, sur un classico. C'était un classico dans la lignée des autres, on va dire, Nabil, malgré tout ce qu'on disait.
On s'attendait à un classico sans saveur, parce que un classico c'était Messi contre Cristiano Ronaldo.
Qui ont peut-être vampirisé d'ailleurs ce spectacle pendant une dizaine d'années.
Vampirisé, mais ils lui ont surtout donné une dimension mondiale.
Oui, puisque... mais en tirant un peu
la lumière à eux.
Évidemment,
mais bon, c'est des cannibales devant le but, comme on en rencontre très peu. Encore qu'hier, parlant de cannibales, Suarez dans ce rôle-là,
il a montré ses dents, comme d'habitude, peu
de concurrents, parce qu'au final, le match hier, c'était Suarez contre Benzema aussi, quelque part. Et on a vu que Benzema, à force d'être un porteur 2 de Cristiano Ronaldo, il a perdu même ses réflexes de buteur. Il est tout le temps dans l'extra-passe, il fuit les zones de vérité, il ne frappe pas quand il faut frapper. Et de l'autre côté, t'as un tueur de surface, un tueur de sang-froid qui s'appelle Suarez. Ça s'est aussi joué là-dessus, parce qu'à un moment, il y a aussi des questions de talent individuel. Après, je veux bien que le Real soit revenu avec d'autres intentions, mais je ne crois pas qu'hier, la différence entre le Real et le FC Barcelone, c'était seulement un poteau de Modric ou une tête de Benzema, c'était surtout 4 buts de différence. Puisqu'il ne faut pas oublier la réalité, hier, ils se sont fait clairement gifler par le FC Barcelone.
Non, et puis surtout, quand on parle de l'entraîneur, on veut bien parler, évidemment, il y a eu des défaites du Real Madrid, mais on peut pas tout jeter la faute sur lui. Je pense que les joueurs devraient bien regarder ces matchs et voir toutes les catastrophes qu'il y a eu quand même à leur niveau.
On va y venir aussi à ce thème. En tout cas, pour ce qui est du Barça, la question qu'on se posait, c'était est-ce que le Barça a été trop fort finalement, ou est-ce que le Real a été trop faible? Écoutons au moins la réponse du triple buteur de la soirée, justement Luis Suarez.
C'est une belle victoire d'équipe. Nous sommes très fiers de montrer ce que nous valons, même sans Léo Messi. Nous sommes forts collectivement. Nous avons un super entraîneur. Nous sommes un groupe uni et cela veut dire beaucoup.
Alors la question, est-ce que ça veut dire que le Barça, et vous aviez commencé à y répondre, est-ce que le Barça peut se passer de Messi?
Oui, mais non. Évidemment. Enfin, si, moi je pense
qu'aucune équipe au monde ne peut se passer d'un tel joueur. Okay, je ne suis pas d'accord.
C'est les meilleures conditions.
Mais là,
en fait,
ils ont joué
en
l'ambulance hier, Cindy.
Oui, mais si hier, Messi s'est rentré là, les buts seraient un festin.
On ne peut pas savoir.
On est bien d'accord. On ne saura jamais.
Ouais,
mais
enfin,
en tout cas,
on sait souvent quand il est sur le terrain quand même.
Oui, mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même, on le met des côtés, mais il y a un Suarez qui est en train, on est enfin en train de les voir, parce que souvent quand il y a Messi, bon, il est un peu, on les voit un peu moins, donc on est en train de voir un grand joueur qui est, en plus, c'est au mental, parce que si on fait la comparaison, par exemple, avec un Benzema, comme tu étais en train de les faire, du côté des Suarez, c'est quelqu'un qui, malgré le fait que parfois il peut perdre des duels, qu'il a des soucis, il arrive quand même à sortir de nulle part et marquer. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même assez costaud.
Eh bien, Nabil, vous pensez pas ça?
Ah non.
Oui.
Non, ils ont joué une équipe très malade hier, qui était déjà en difficulté lors des compétitions nationales la saison dernière. Je dis pas que la Ligue des Champions a été un arbre qui cache la forêt. C'était une bête blessée qui a hissé son niveau de jeu d'une manière incroyable. Et j'en profite
parce
d'ailleurs.
Parce que c'était un classico, peut-être.
Ouais, et j'en profite d'ailleurs pour dire à ceux qui expliquaient que entraîner le Real de Madrid c'était facile, que c'était une Formule 1, qu'il fallait mettre juste quelques réglages pour un petit peu dévaloriser le rôle de Zidane. On se rend compte que Benitez, il a échoué. L'ami Lopetegui, là, pour le coup, également, il est en situation d'échec et va être certainement remercié. Pour moi, en fait, c'est juste une continuité d'une équipe qui est en fin de cycle.
Donc, en fait, c'est pas le Barça qui était trop fort, c'était le Real qui était trop faible.
Moi, je pense que le problème, c'est
le Real.
Après que le Barça puisse battre le Real Madrid, même si le Real Madrid va mieux, mais hier, Annie, quand même, il y a 4 buts d'écart. C'est un score qui est humiliant, quoi.
Les 4 buts arrivent à un moment, c'est-à-dire que tu les prends en fin de match parce que tu sais, comme le but de Marseille, le deuxième but, tu le prends parce que t'es à l'abordage. Mais je pense vraiment que si ce but de Benzema arrive, peut-être qu'on a une autre philosophie de jeu parce que, ils étaient pas forcément bien rentrés en seconde et le Real était un petit peu mieux. Et ça n'a pas été pour moi un très grand Barça, même s'ils en mettent 5.
Oui, juste remettre en perspective la performance ou la défaite du Real. Le mal est quand même un petit peu plus profond qu'une occasion manquée depuis le 26 septembre. 5 défaites, 1 nul, une victoire en Ligue des Champions la semaine dernière contre le Victoria Pilsen. Donc globalement, le mal est quand même assez profond du côté de la Maison Blanche.
Ah oui, mais ça c'est pas nouveau, il y a un problème.
Mais c'est surtout une équipe, c'est ça les problèmes avec les Real Madrid, qui s'est toujours beaucoup concentré sur la Ligue des Champions. Et là, on est en train de payer les frais de ces choix-là, parce qu'ils sont pas beaucoup investis, justement. On a cru que, voilà, c'était le Real, ça suffisait à lui-même. Ils sont pas beaucoup investis au niveau des joueurs. Maintenant, on est face à cette équipe-là qui n'arrive pas à décoller, en tout cas au niveau local. Et d'ailleurs, c'était le cas déjà dans les précédentes années. Donc, voilà, on est un peu...
Mais Marc, quand on dit alors un Real trop faible, mais peut-être qu'aussi cette équipe du Barça qui jouait ce classico sans Messi, elle doit s'y habituer pour 3 semaines. Ouais. Eh bien, c'était un match très important pour Valverde, pour Luis Suarez, et il a été à la hauteur. Finalement, lui, il dit bien, on a réagi en groupe. C'est-à-dire que peut-être que la réaction, quand on s'en remet pas à un joueur phare, et Messi, combien est-il un phare, mais finalement, ils ont réussi à pallier son absence.
Ben, absolument. Après, on va prendre l'exemple de quand Cavani sort face à Lyon, Mbappé récupère le poste de numéro 9, il met 4 buts, c'est ça, si mes souvenirs sont bons. Là, il y a de la place, c'est-à-dire que pour Suarez, c'est beaucoup plus facile de s'exprimer quand il n'y a pas Messi. Il faut savoir que quand il y avait le roi Ibra, Cavani était obligé d'aller se contenter d'être sur un côté et ça mettait 19 à 20 buts. Depuis qu'il est plus là, il en met entre 35 et 45. Donc, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Suarez a fait le job, l'équipe a fait le job. Quand vous savez que vous avez votre big boss qui est là et qui est blessé, eh ben, on va tout faire pour lui parce qu'autrement, on va dire, il est tout le temps présent, et c'est normal. Si on perd, ben, c'est normal, Messi est pas là. On n'a pas envie d'entendre ce genre de choses.
Non, mais c'est surtout les joueurs avant qui s'est tourné forcément vers Messi. Il cherchait toujours les numéros 10. Maintenant, il n'y a pas les numéros 10, ils sont obligés de faire du collectif. Après, je suis bien d'accord qu'il y a quand même une influence qui dépasse d'ailleurs les terrains, puisque même quand il est en tribune, je veux bien croire tout ça, mais il y a aussi une réalité, c'est que les joueurs sont en train de se réveiller et maintenant ils peuvent faire sans Messi. Donc je ne dis pas qu'il est indispensable, mais ils sont en train d'arriver à construire et faire du collectif. Je suis tout à fait d'accord avec Suarez.
Ceux qu'on a vus aussi en dehors de... Parce qu'à l'époque, on se souvient quand Messi avait une fois été longtemps absent, il y avait eu Neymar qui avait essayé de
supplé. Relais, vous avez raison.
Exactement.
Annie.
Et là, c'était presque la première fois qu'on voyait quand même Suarez prendre ce relais.
Oui, mais souvenez-vous, il y a 2 saisons de ça, Suarez, il était absolument monstrueux. Il avait mis une quarantaine de buts, 16 passes décisives. Mais vous avez raison, celui qui prenait le relais jusqu'à présent de Messi, c'est Neymar. Mais il n'est plus là, il est au Paris Saint-Germain. au Real Madrid, on a vu que personne ne prenait encore le relais de Ronaldo, et finalement Bale et Benzema sont plutôt décevants dans ce registre. J'ai parlé tout à l'heure de Benzema, mais il y en a un aussi également, c'est l'ami Bale qui passe un petit peu à côté de son match. Après, il y a le travail de Valverde qu'il faut mettre en exergue. Il a quand même fait des choix, il a solidifié la défense du FC Barcelone, surtout la saison dernière, même si cette année en début de saison avec Piqué ils ont eu des difficultés. Ils ont une trouvaille qui est exceptionnelle, Annie, c'est ce Brésilien, encore un Brésilien, j'ai envie de vous dire. Mais je pense que Hugo va en parler. Et moi, ce que j'ai aimé également, pour être très sincère avec vous, c'est qu'il a fait un choix fort. Il a pas cédé à la politique finalement des statuts et des gros transferts. Il estime que Dembélé n'est pas dans le coup. Il a plutôt choisi Rafinha face à l'Inter et face au Real Madrid, et ça lui a donné raison. C'est aussi ça, un coach, c'est quelqu'un qui est capable de choix forts.
Hugo, alors parlez-nous de ce Arthur.
Oui, et qui notamment relègue Arturo Vidal, qui a quand même un certain pedigree sur le banc.
On aime tous, ouais. En
Arthur,
plus.
Arthur, vous le prononcez comment à la brésilienne?
Arthur.
Bon, je vais.
Il n'y a pas de
je vais rester sur Arthur, si vous me le permettez. Alors, il a 22 ans, Arthur. Il est arrivé cet été contre 31 millions d'euros en provenance de Porto Alegre, du Grêmio Porto Alegre, avec lequel il avait remporté.
Si je dis pas de bêtises.
Ouais, bien sûr. C'est ça.
Je vous crois. Sur parole, il avait gagné notamment la Copa Libertadores, équivalent de la Ligue des Champions là-bas. 31 millions par les temps qui courent, c'est pas beaucoup. Donc, on peut parler d'une bonne pioche.
C'est
alors que les recruteurs catalans. Exactement. Il a été vendu pratiquement 30 millions.
Voilà.
Les recruteurs catalans ont eu le nez creux avec lui, alors qu'ils avaient plutôt brillé par leurs errances ces derniers temps, notamment au milieu de terrain, avec la lourde tâche de préparer la succession de Xavi et d'Iniesta.
Il porte le numéro de Xavi.
Ouais. Et ce qui est fou, c'est que, esthétiquement, il nous fait penser presque à un mélange entre un mélange de ces deux joueurs, un peu de Xavi, un peu d'Iniesta, dans cette capacité à distribuer le jeu.
Vous voulez dire par là qu'il a coûté 120 millions d'euros de moins que Dembélé, mais que ça semble être une meilleure pioche? C'est ça que vous essayez de nous expliquer?
Non, on va y venir, Dembélé. Même poste. Vous êtes très injuste.
C'est une meilleure pioche que au hasard Denis Suarez, Paulinho ou André Gomes.
Ce qui est étonnant avec ce joueur, peut-être Marc, et on l'entendait hier dans les commentaires de nos confrères, notamment on y viendra de là, c'était TV Sport tout à l'heure qui nous résumait le match, mais dans les commentaires en France, c'est qu'on se demandait si ce Arthur ne sortait pas de la Masia, c'est-à-dire ne sortait pas finalement du moule du Barça, dans lequel il a l'air de s'être lové à merveille en quelques semaines.
Est-ce que cette équipe-là, est-ce que les recruteurs ne cherchent pas ce profil joueur, même s'il n'est pas passé par la Masia? Donc,
c'est souvent, ils leur font un peu plus de temps, disons.
Il y a quelques déceptions, je parlais d'André Gomes, par exemple.
C'est une grosse déception. Peut-être qu'il n'a pas supporté aussi la pression, parce qu'il y a une énorme pression. Lui, il avait dit, j'ai du mal à rentrer dans le stade, je sens ce qui se passe autour de moi, c'est compliqué. Lui, il n'a pas de souci. Par contre, il est dans le moule. Et après, encore une fois, aujourd'hui, vous mettez n'importe quel joueur qui n'a pas peur, qui supporte la pression. C'est vraiment facile de jouer au milieu de terrain. Du Barça, c'est plutôt facile quand on est talentueux.
Il faut aussi accorder à Valverde le crédit d'une bonne gestion du cas Arthur, parce qu'il faut s'adapter, comme vous le dites, et encore plus quand on vient du Brésil, d'un autre continent, d'un autre championnat. Première titularisation seulement lors de la 5e journée de la Liga, et il ne quitte plus le 11 Arthur depuis 5 rencontres et une victoire à Tottenham en Ligue des Champions. Donc on a pris le temps de le laisser s'acclimater, et il n'a toujours pas disputé un match en entier, donc il y a là aussi une gestion. Il n'est pas encore prêt peut-être à disputer 90
minutes.
Ce sont
vraiment des joueurs qui sont là pour perturber les titulaires. On l'a vu, les titulaires ne jouent pas, et maintenant c'est lui qui joue. Donc ces joueurs-là sont là pour pousser les autres, mais finalement il est en train de les pousser dehors. Il va jouer, donc c'est très important, parce qu'il peut passer une saison tranquillement à être sur le banc, à prendre un petit peu comme l'a fait Dembélé les premières saisons. Aujourd'hui, Dembélé a fait un petit peu l'imbécile, et il se retrouve sur le banc, il jouera presque plus, avec tout ce qu'on peut entendre. Donc c'est compliqué pour lui. En tout cas, lui, il a su saisir sa chance, et en tout cas, c'est important, et il est très bon.
Hugo?
Oui, juste fini, parce que j'aime tellement ce Arthur.
Ah, pardon.
Je veux lui accorder 3 prises de parole dans cette émission. C'est très important pour moi. Non, pour dire qu'il a aussi fait ses débuts en équipe du Brésil, depuis le mois de septembre, avec 4 sélections, et notamment joué l'intégralité du dernier match du Brésil face à l'Argentine. Donc, là aussi, il est peut-être en train de prendre un poids considérable au sein de la Seleção.
Et de prendre du galon. Alors, vous parliez tout à l'heure avec ironie d'Ousmane Dembélé.
Moi, je pense qu'il y a un souci,
Nabil.
Il
y a un
souci,
mais
il a fait une belle entrée.
Le match d'hier, justement, vous dites que vous aimez aussi Arturo Vidal. Résultat, les deux sont rentrés, ils mettent le 4e but. Bon, alors, dans des circonstances, c'est en fin de match, mais en tout cas, Dembélé fait aussi une passe décisive à Luis Suarez.
Oui, d'accord, mais je suis totalement d'accord sur le fait qu'il ait été en partie efficace. La passe décisive, il l'a fait à Vidal. Il est à l'origine d'une contre-attaque avec une avant-dernière passe, mais effectivement, il fait bien les choses, il s'applique, il donne une passe qui est dans le bon tempo. Moi, je pense quand même, et après ça c'est très personnel et c'est mon opinion, j'ai toujours des réserves sur son adaptation et sa compatibilité au jeu du FC Barcelone. Moi, je rappelle que le FC Barcelone, c'est pas une pouponnière à 150 millions d'euros. Alors, je veux bien qu'on lui laisse du temps. Mais je pense que, justement, l'émergence d'Arthur au milieu de terrain et le fait de voir Coutinho jouer un cran plus haut, Aujourd'hui, ça met en difficulté Dembélé. Ça le met pas seulement en difficulté par rapport au 11 titulaire, mais ça va le mettre aussi en difficulté parce qu'à un moment, Valverde va aussi le mettre en concurrence avec le Brésilien Malcolm qui est arrivé cet été de Bordeaux pour 40 millions d'euros. Donc, aussi. Quand tu es dans des clubs comme ça, Annie, soit vous êtes bon, vous êtes bon tout le temps. Mmh.
Benzema et vous poussez les autres dehors comme
Benzema
disait Marc.
Pour durer 9 ans au Real Madrid.
Il les a tous épuisés.
Ça veut dire qu'il faut être un animal et il faut résister à une pression XXL. Donc l'intermittence, parce que c'est de l'intermittence Dembélé, c'est des qualités énormes, c'est une illisibilité énorme dans son jeu, il est imprévisible. Mais malheureusement quand tu signes au FC Barcelone, t'es pas à Dortmund, il faut le faire tous les matchs, sinon ça se voit.
Mais j'ai l'impression que Dembélé est en train de rencontrer plus ou moins les mêmes difficultés qu'avait rencontré Neymar à son époque, c'est-à-dire que en fait dans les jeux du Barça, ce sont des personnes qui en fait c'est des jeux des derrière qui bougent un peu les espaces et donc qui finissent par trouver des occasions. Là Dembélé est un peu moins à l'aise, d'ailleurs c'est parfois aussi le cas en équipe de France, mais on peut pas lui enlever qu'en tout cas hier il a été pour deux bonnes occasions au moins des 16 minutes quelque chose comme ça. Donc il contribue à l'équipe, il apporte une touche des fraîcheurs, même si il a du mal encore à s'adapter, on le sent de la même façon qu'il c'était le cas.
Le problème, c'est qu'il est là depuis un an et demi et qu'il n'est pas titulaire, c'est ça le problème.
Oui, et puis attendez, Annie, c'est pas que ça le problème, c'est pas que le terrain, c'est en dehors du terrain que ça devient problématique. Il est quand même mêlé à des bruits qui sont parfois avérés, puisque moi j'ai travaillé l'année dernière sur le dossier, il change de cuistot tous les quarts d'heure pour des questions d'hygiène de vie, bon, je suis un peu caricatural. Là, il arrive en retard. Moi, je sais que l'année dernière, le directeur sportif du FC Barcelone ne savait pas comment le gérer et gérer aussi, pour le coup, son entourage. Donc, soit il rentre dans le moule, soit ils vont le mettre en valeur et ils vont le faire jouer plus qu'on ne le pense.
Pour le vendre.
Bah, pour le vendre.
Oui, ça, c'est des problèmes disciplinaires, du coup.
Alors, parlons de ce Real Madrid. Trop faible, à votre avis, et vraisemblablement, parce que pour encaisser quand même 5 buts. Alors, est-ce que, finalement, ces joueurs, on les a vus, comment on peut, finalement, rendre une telle copie? Un jour très triste pour le Real et pour tous ses supporters, a déclaré le capitaine, Sergio Ramos, en sortant du terrain. Mais écoutons Casemiro, parce que lui, il a eu des propos plus tranchants, et d'ailleurs, ça a énervé son capitaine.
Ce n'est pas la faute de l'entraîneur, c'est un tout. La faute vient principalement des joueurs. Nous devons mieux jouer, montrer plus de caractère, courir plus. Ce club est très exigeant, nous le savons, mais cette défaite par 5 buts à 1 reflète bien la saison compliquée que nous vivons.
Comment, Marc, il dit tout va mal. Alors déjà, effectivement, peut-être qu'il ne faut pas le dire dans un micro devant tous les médias.
Mais il a raison, il a raison.
Mais surtout, d'abord, comment une défense peut se laisser aller à la fin et encaisser ses 5 buts parce qu'on les a vus aux abois.
C'est pas que la défense. Si on prend
Vous le disiez tout à l'heure, ils essayaient d'égaliser.
Ouais, mais ça après.
Ils ont pris des risques énormes avec des espaces très importants.
Si on parle de la défense, faut parler de Varane qui n'est plus le Varane que l'on a connu il y a quelques semaines et qui a levé la Coupe du Monde. Faut le dire aussi. Le grand Modric que l'on a pu voir depuis 6-7 derniers mois, même jusqu'en finale de Coupe du Monde, c'est plus le même Modric. Est-ce que c'est lié à ses affaires extrasportives, que c'est quand même assez compliqué,
après,
assez difficile.
Il y a un truc qu'on oublie de dire, c'est qu'il a 33 ans, Modric. Alors je dis pas qu'on peut pas être
bien
à 33 ans.
Non, mais ça, tu as raison.
Mais il a pas ses jambes de 20 ans, j'exagère un peu, mais
tu as raison. Mais tu sais, le contre-coup de la Coupe du Monde où tu te vois la Croatie, t'as une super équipe, ça joue,
porte beaucoup
tu vas en finale. Ouais, ça demande. Et puis après, il y a encore un élément, c'est qu'ils n'ont pas remplacé et on ne remplacera jamais Ronaldo. On peut pas recruter l'attaquant de Lyon pour dire c'est la place de Ronaldo. Ça, c'est pas possible. Excusez-moi, on ne peut pas. Donc à ce moment-là, quand on arrive là, et de faire croire aujourd'hui, malheureusement, que Benzema, parce qu'on met la pression à Benzema et à Bale, c'est vous qui allez prendre la place de CR7. Mais personne ne prendra jamais. Et quand Messi partira, personne ne prendra la place de Messi.
Donc alors tu joues autrement.
Mais justement, mais le recrutement, il a été raté.
Il n'y a pas de recrutement, ça a été un choix politique.
Ah ouais.
Le seul recrutement, c'est un joueur dont ils n'avaient pas besoin, puisqu'ils avaient Keylor Navas qui sortait de la meilleure saison de sa carrière. Ils ont pris Courtois.
Donc mais ça c'est un autre,
après,
Annie, un autre élément.
Je pense que c'est une saison de transition qui ne dit pas son nom parce que ça ne se dit pas au Real.
Oui, parce qu'ils ont été pendant finalement 4-5 ans au sommet.
Oui.
Ils gagnent ces 4 Ligues de Champions sur 5, ils gagnent un championnat.
Ils ont de l'autosuffisance, justement. C'est ça les problèmes. C'est que c'est une équipe qui, du coup, pense qu'ils ont besoin de rien, et c'est au niveau aussi de l'UEFA. Ils veulent pas faire des investissements et ils se retrouvent comme
c'est
ça.
C'est pas qu'ils veulent pas faire des investissements, si je peux me permettre, Cindy, c'est que ils veulent faire des investissements rapport qualité-prix, comme eux le souhaitent. C'est-à-dire, en gros, ils veulent pas de joueurs intermédiaires à 120, 130 millions d'euros, des joueurs qui peuvent être moyens. Ils veulent la crème de la crème.
Bah, mais ils ont Gareth Bale, par exemple, qui est la crème de la crème.
La crème de la crème anglaise ou galloise.
C'est la crème anglaise.
C'est la crème galloise, lui. Non, mais concrètement, les joueurs qui visent, c'est Neymar, Mbappé, ils veulent pas de joueurs intermédiaires, genre Rodrigo, l'attaquant de Valence à 120 millions. Ils pouvaient les mettre les 120 millions, mais ils les ont pas mis. Parce qu'en fait, ce qu'ils attendent, c'est de ramener Neymar ou Mbappé
et
pour le mettre face à Messi.
Neymar a toujours rêvé.
Voilà, c'est ça.
Peut-être.
C'est ça.
Après la Ligue, je pense que Neymar peut-être partira après la Ligue des Champions avec Paris. Je pense pas qu'il quittera comme ça, mais de toute façon, c'est un peu les rêves de Neymar depuis tous les temps. Mais ça n'enlèvera pas les problèmes. Je pense que, en effet, comme tu disais tout à l'heure, Marc, il y a CR7 qui, on pourra pas les remplacer, mais je ne pense pas que ce soit justement lié à ses qualités physiques ou de jeu. Mais c'est aussi parce que c'était une personnalité. C'est quelqu'un qui arrivait à porter l'équipe. C'est quelqu'un aussi qui effraie les adversaires, parce que les adversaires, du coup, sont tous en train de les recouper.
Alors, Zlatan est vrai, Annie, je me permets de...
Le Real
a vraiment contacté Zlatan Ibrahimovic parce qu'il cherche, comme l'a dit à juste titre Cindy, un personnage incarnant, charismatique. Mm-hmm. Il pourrait venir faire.
Ils ne sont pas qualifiés hier soir, son équipe. Ils ne sont pas
exactement,
dans les playoffs.
Ils n'iront pas dans les playoffs aux États-Unis avec la MLS.
Donc, il est en vacances.
Hugo.
Oui, juste concernant les investissements du Real Madrid, alors je ne suis pas dans le secret des dieux de Florentino Pérez, mais il me semble que...
Un peu quand même.
Vous me connaissez si bien,
Marc.
C'est bien informé.
Et on n'investit pas seulement en achetant des joueurs quand on dirige un club de foot. Il y a également la rénovation du
toit,
stade
surtout.
Ou la construction même d'un nouveau
le
Bernabéu.
Toit, en fait, c'est surtout le toit pour 250 à 300 millions d'euros. En fait, en Espagne, on dit que la meilleure recrue du Real, c'est le toit.
Donc une rénovation de Santiago Bernabéu, donc il y a aussi des investissements à plus long terme, sachant que sportivement il était pratiquement impossible d'imaginer le Real réaliser une saison à la hauteur de ses trois précédents.
J'ai des copains qui font des toitures, ils peuvent s'arranger, c'est peut-être moins cher.
C'est toi, mon toit au Real en ce moment.
Non, mais c'était pour rebondir sur l'idée qu'il y a forcément des saisons de transition.
En tout cas, on y reviendra sûrement à cette équipe, puisque Julien Lopetegui était en sursis, on le voyait un peu sur son visage d'ailleurs hier. À la fin du match, il a assumé l'entière responsabilité de ce naufrage. Il serait en partance, mais ce matin, il était à l'entraînement avec l'équipe qui faisait un entraînement de lendemain de match. Ils joueront cette semaine la Coupe d'Espagne, peut-être sans lui. En tout cas, le Real Madrid se retrouve 9e du classement avec autant de victoires que de défaites. Et ils sont derrière Retafe, Levante, Valladolid.
Zidane a tout beau, en fait. Il est visionnaire, c'est incroyable.
À 7 points du leader, à 5 points du podium. On faisait une allusion, on y reviendra.
Ils sont pas loin, ni du podium.
Oui, non, mais exactement. Voilà, c'est ça, exactement. 7 points du leader, 5 points du podium. Donc, il devrait y arriver. En tout cas, à noter les déclarations dans France Football, Nabil, de Cristiano Ronaldo, qui revient un peu sur son départ, en fait.
Oui. Bon, on apprend effectivement.
Non, mais il explique, lui qui est parti sans faire d'adieu aux supporters et à Bernabéu.
C'est moi, je t'aime moi non plus. C'était un peu l'histoire avec Florentino Pérez. On sent que c'est un garçon qui aime être désiré, qui aime être au centre des attentions, et il a ressenti un peu moins de bienveillance de la part du président du Real. Il explique ainsi son départ de ce club.
On ne me considérait plus comme au début, dit-il. Voilà.
C'est comme en amour, alors, ça.
C'est la fin d'une histoire d'amour à lire dans France Football, parce qu'il évoque aussi d'autres sujets, évidemment, ce qui l'embête beaucoup au quotidien ces temps-ci, c'est-à-dire cette affaire d'accusation de viol aux États-Unis.
Je déteste jouer sans Kylian dans ce match. On fait des plans, après on doit changer, et je n'aime pas ça. Et aujourd'hui, je suis un peu triste de ça. Je dois réfléchir, mais pas de grand chance, mais ça me préoccupe.
Et on va atteindre l'heure de jeu sans un but parisien. C'est déjà vu cette saison en Ligue 1, et ça oblige Thomas Tuchel à rappeler Kylian Mbappé. Le génie français va rentrer dans ce classico. La sortie de Choupo-Moting et l'entrée de Kylian Mbappé sous les vivas du Vélodrome. Appris par Van Sanson, par Julian Draxler, Di Maria pour Kylian Mbappé. La vitesse de Mbappé, Camara, c'est tous. Mbappé qui est parti. Et Mbappé qui met son deuxième ballon. Fait déjà la différence. 65e minute. Le génie français met le Paris Saint-Germain devant dans ce classico. La réponse de Kylian Mbappé.
Une grande équipe se repose sur des leaders. Et il faut qu'ils sachent faire la différence dans les moments clés. Il ne faut pas tout reposer sur un ou deux hommes. Et je pense que je peux assumer ce rôle, et je l'ai fait aujourd'hui. Et voilà, il faut continuer rester dans le droit chemin.
Dimitri Payet, Gustavo, et Mitroglou.
Il y a une faute sifflée par M. Bastien dès le début de ce coup franc.
Bah, si un jour la VAR est mise en route dans le championnat de France, peut-être que on verra pas ce qui est arrivé aujourd'hui. Moi, je milite pour la VAR et malheureusement, elle n'est pas encore en circulation.
La frappe de Neymar, et c'est Julian Draxler qui vient marquer le deuxième but parisien sur ce contre éclair dans le temps additionnel. Le PSG qui enfonce le clou, qui s'assure une 11e victoire consécutive en Ligue 1, qui égale le record d'Europe.
Il y a le score, il y a le contenu. Sur le contenu, même les chiffres le disent, on a fait jeu égal avec le Paris Saint-Germain. Je pense que le score n'est pas logique.
Un petit montage, un résumé de ce match signé Julien Magoharu, notre réalisateur du jour. Et c'était évidemment avec le soutien de nos camarades de Canal+, Habib Bey bien sûr, et surtout Stéphane Guy au commentaire. Alors, le score nous dit, en tout cas, Rudy Garcia n'est pas logique, contrairement au Camp Nou, hein, puisque on vient de parler de ce Barça à Real, du vrai classico peut-être du week-end. Moins de buts, moins d'intensité, moins de spectacles, peut-être aussi plus l'envie trop de l'appeler le classico. Marc, est-ce que justement ce rendez-vous OM-PSG ou PSG-OM, oui, c'est toujours un match passionnant?
Ça fait très longtemps que c'est monté en épingle par les médias, puisque le grand classique, enfin les classiques de l'époque,
Marseille ne l'a pas remporté. Hein. Ouais, mais depuis novembre 2011.
Ça, je l'entends, il y a pas de problème. Moi, le vrai, c'est 90.
Non, mais ça
c'est
quand il y a une hiérarchie.
Oui, mais aujourd'hui, les médias s'en servent pour faire monter quelque chose. Hier, on parlait plus, ce qui est terrible, parce que l'autre diffuseur a plus de mal. On a plus de mal à le suivre, donc on parlait plus du classique. On parlait plus du ce classique que du classico. Moi, hier à 16h15, j'étais devant mon écran, j'ai pas regardé Rennes, j'ai pas regardé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, faut se poser les bonnes questions. Ce match n'a plus grand intérêt pour les joueurs aujourd'hui. Paris est au-dessus. Pour les supporters marseillais, le peuple marseillais, c'est très important. Après, je pense qu'on reviendra sur la déclaration de Rudy Garcia, qui pleure et qui pleure. Quand on entre dans le plus grand, il faut arrêter de pleurer. Non, mais il faut arrêter de pleurer. Il prend l'exemple.
C'est un Marseillais qui vous dit ça.
Non, mais je suis assez lucide et logique. Bien sûr, je fais mon métier le plus logiquement possible. Ils ont été très mauvais. Ils sont tombés contre une équipe de Paris qui, pendant une heure, a joué sans attaquant et Marseille sans attaquant. Donc, comment vous voulez marquer des buts? Il y a un attaquant qui rentre. Ils ont fait la diff. Et après, se rabattre derrière cette faute, on en parlera tout à l'heure, je pense.
Cindy, est-ce que c'est un match qui est suivi, par exemple, en Amérique du Sud? Parce qu'on nous dit à chaque fois, il y a, alors, pour Neymar. Le classico espagnol, c'est 600 millions de personnes derrière la télé. Non. Est-ce qu'un OM-PSG traverse l'océan?
Non, ou alors, vraiment, comme tu l'as dit, pour les Brésiliens qui regardent et qui s'extasient face à Neymar.
Parce qu'il y a beaucoup de Brésiliens.
Ou encore parce que c'est vrai que Mbappé, on suit un peu aussi ses performances. Mais non, ce n'est pas un classico tel qu'on peut l'entendre de l'autre.
Nabil, ça vous passionne toujours ce OM-PSG, ou on peut se dire, par exemple, l'année dernière, on se souvient qu'il y avait peut-être des PSG Lyon ou Monaco plus intéressants finalement?
Non, mais sportivement, évidemment, l'écart s'est creusé. La réalité des rapports de force est effectivement compliquée pour l'Olympique de Marseille ou pour tout autre club aujourd'hui en Ligue 1 face à un Paris Saint-Germain qui est composé de joueurs de top players pour le coup.
Comme Éric-Maxime Choupo-Moting par exemple, le titulaire.
Ouais, mais Choupo-Moting,
ironise un petit peu, mais c'est pas les top players.
Je veux dire dans l'absolu. Après, c'est vrai qu'hier le Paris Saint-Germain, c'est là où c'est terrible, Hugo, c'est que même avec cinq titulaires en moins.
Cinq patrons. Patron.
Thiago Silva, Mbappé,
Cavani.
Rabiot, Kimpembe, la moitié de l'équipe.
Tu rajoutes Buffon,
la moitié de l'équipe. T'as l'Olympique de Marseille qui se présente en France sans numéro 9 à domicile. 2 ans après la reprise du club, aujourd'hui l'ambition de Marseille, 2 ans après la reprise du club, c'est de se pointer sans un attaquant à domicile avec 60 000 personnes
c'est pas possible.
Qui sont là. Donc ça, déjà, c'est un désaveu qui est terrible pour l'Olympique de Marseille. Après, la générosité, l'abnégation. Il n'y a rien à leur reprocher aux joueurs de l'OM hier, à l'image d'un Ocampos qui a été au four non,
ça
et au moulin.
Plus. Ça suffit plus.
Non, ils ont regardé les PSG les yeux dans les yeux. Hein. Ça, c'est clair, en fait. En tout cas, pendant la première mi-temps, c'était un match serré. Mais c'est clair que maintenant, quand on voit les niveaux du PSG...
Le seul truc qui est serré en ce moment, c'est notre café. Hein, parce que quand on voit le Paris Saint-Germain, franchement, il n'y a pas de match.
Mais oui, mais c'est parce que c'est supérieur de toute façon que toutes les équipes actuelles au monde. Donc forcément, il y a un décalage qui est assez important. Je pense que maintenant, ces classicos, s'il existe, il existe en tout cas dans les tribunes par rapport aux supporters. Pas vraiment, en tout cas,
après,
au niveau du terrain.
Tout le monde le regarde. Enfin, je veux dire, on n'est pas content.
Il y a toujours la dualité.
On aime la dualité et la compétition, mais tout le monde le regarde quand même.
Et tu penses qu'il va y avoir un exploit, c'est tout.
Voilà, c'est David contre Goliath.
Mais il y a eu un exploit, Marc, hier, vous ne l'avez pas vu, vous le passez sous silence parce que vous n'aimez pas vraiment l'Olympique de Marseille. Mais jusqu'ici, le Paris Saint-Germain avait inscrit en moyenne 3 buts par match contre ses adversaires français depuis le début de la saison. Il n'en a inscrit que 2 hier. C'est énorme.
C'est vrai, c'était énorme.
C'est vraiment à mettre au crédit des fossés.
C'est une information très importante. Alors, non mais, c'est-à-dire mettre que 2 buts avec des attaquants qui rentrent à la 65e, je crois que c'est énorme. Parce que s'ils avaient joué dès le début, je pense qu'il y en aurait eu 5.
Marc, cet OM finalement, on avait vu durant la semaine un OM assez pathétique, triste, on va dire, contre la Lazio en Ligue Europa. Là, il montre un autre visage. Est-ce qu'il y a un espoir quand même à tirer de cette prestation d'hier soir ou pas vraiment?
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il montre puisque la plupart du temps ils ont joué donc sans attaquant. On a 3 défenseurs de Paris qui se sont posés la question. Mais qu'est-ce qu'on a à faire ce soir? Je pense qu'on devrait aller sur la canne-bière prendre un verre parce qu'on a personne à charger. C'est même Abi Bey s'est dit mais il faudrait que les 1 ou 2 sortent à la milieu parce que là il s'ennuie tellement que c'est catastrophique. Et Marseille, on peut pas envoyer Thauvin tout seul face à 5 ou 6 Parisiens, on peut pas envoyer Payet en numéro 9 qui n'est pas un numéro 9 qu'on le veuille ou non. Donc ce système de jeu, alors qu'on le veuille ou non, Germain Mitroglou, ils aiment pas, ils sont pas bons, ils sont mauvais. OK, c'est vous qui les avez achetés donc il faut pouvoir les faire jouer aujourd'hui et ils ne peuvent pas les faire jouer. Donc partir comme ça à l'abordage en disant "Ah ben je vais tenter un coup, je vais renforcer mon milieu." Mais renforcer ton milieu à quoi? Comment? C'est complètement fou. Et c'est pour moi n'importe quoi qui a été fait par Rudy Garcia. Mais bon, entre-temps, il a re-signé. Son directeur sportif espagnol a re-signé. Donc tout va bien.
Nabil, vous êtes aussi pessimiste
Pessimiste, non, je pense que c'est...
Réaliste, alors
non, mais surréaliste
Enfin, par rapport au Paris Saint-Germain et au niveau européen, je ne crois pas dans le projet de l'Olympique de Marseille. En revanche, la Ligue 1, aujourd'hui, elle est tellement moyenne, on l'a vu sur cette semaine, que l'Olympique de Marseille... bon an, mal an, peut quand même accrocher ce podium, d'autant que Monaco est complètement à la cave. Lyon, effectivement, est aujourd'hui le vrai rival de l'Olympique de Marseille. Et encore que quand l'Olympique de Marseille rencontre Lyon, ça se passe plutôt mal ces dernières saisons. Après, il y a Lille.
Et il y a Montpellier.
Il y a Lille qui est en trouble fête. Donc, moi, à Marseille, je m'interroge, effectivement. Après, il y a le recrutement qui est pour moi un échec, globalement. Je comprends pas qu'on puisse recruter. Je dis pas que c'est pas un bon joueur. Mais ça doit pas être aujourd'hui la tête d'affiche du recrutement de l'OM. Kevin Strootman, 29 ans, 25 millions d'euros, 2 fois les croisés. 50 contrats, plus gros salaire de l'Olympique de Marseille. C'est pas un joueur qui marque des buts, Strootman. C'est un destructeur. Voilà, je veux dire, c'est aussi
non,
c'est
mais aussi on signal on que s'interroge effectivement sur,
et
sur
les
choix.
Les deux recrues stars sont sur le banc. Kalaitachar et Radonjić, qui sont entre guillemets les stars, sont sur le banc.
Radonjić est une star entre guillemets. Parce
oui, mais
que...
c'est annoncé comme ça pour aider l'Olympique de Marseille. Donc ils doivent, alors star ou pas, ils sont là pour aider et ils ne jouent pas.
Quand McCourt, moi pour moi c'est terminé, quand McCourt il vous explique avant le match que c'est David contre Goliath, donc il est venu à Marseille pour être David. Le David, moi, pour moi, c'est une statue.
Il n'a pas les moyens du Qatar.
Non, mais face à la
Non, mais au-delà, au fait, on parle
mesuré,
toujours.
Quand même.
Non, mais vous parlez toujours des moyens du PSG, mais moi, je pense que ça va beaucoup plus au-delà de ça. Là, c'est. Oui, tu voulais dire.
Non, mais vas-y, je t'en prie, parce que j'ai envie de répondre. Naples, ils n'ont pas les moyens du Qatar, mais ils leur ont donné une leçon de football au Parc des Princes.
Voilà. Par exemple.
Tiens, voilà, Hugo, ça t'apprendra.
Très bien, voilà. Marseille n'a pas les moyens de Naples depuis autant de saisons.
Ouais, mais bon, ça veut dire
que Naples est au niveau.
Plus
de 5 ans.
Venons sur cette surprise en début de match, c'est on ne voit pas Kylian Mbappé. Quand même qu'on s'accorde à dire tous que c'est le petit génie du côté du Paris Saint-Germain, avec d'autres, mais pas le seul. On a vite su donc qu'il y avait un problème d'indiscipline, retard à la causerie. Vous l'avez entendu tout à l'heure, Thomas Tuchel, qui dit « Je déteste jouer sans Kylian, je suis un peu triste, ça me préoccupe ». Hugo, en plus, c'est pas la première fois que Tuchel fait un comme ça acte d'autorité.
Oui, un certain Pierre-Emerick Aubameyang, on avait fait les frais à l'époque Borussia Dortmund. Une escapade... à Milan avant un match de Ligue des Champions qui n'avait pas plu à Thomas Tuchel, qui avait purement et simplement écarté celui qui à l'époque était sa star, clairement Pierre-Emerick Aubameyang, le meilleur buteur du club, et ça avait plutôt bien fonctionné, à l'image d'un Mbappé qui rentre, qui marque 3 minutes après son entrée en jeu. Lui, Aubameyang, pour son retour en championnat, le match qui avait suivi, donc ce match face au Sporting en Ligue des Champions, il avait signé un quadruplé. Donc comme quoi, parfois ça marche.
Et là, on voit que Kylian Mbappé, ben, il met 3 minutes, je crois, entre son entrée en jeu et le moment de marquer un but. Marc, vous qui avez été dans des vestiaires, vous qui avez connu des entraîneurs, est-ce que vous trouvez logique que Thomas Tuchel, qui a l'air très affecté, on a l'air de comprendre à l'issue de la conférence de presse hier que c'était peut-être pas la première fois que Kylian Mbappé, était un peu était un peu en retard. Est-ce que il a eu raison d'agir comme ça le jour de Marseille PSG?
Il n'y a pas de jour Marseille PSG. On est en retard. Qu'est-ce qu'on fait passer? Quelle est l'information qu'on donne par rapport au groupe? Il a absolument raison, que ça soit Rabiot, que ça. Après, je mets un bémol quand on donne beaucoup de temps à Neymar pour partir se promener, qu'on dit à Rabiot tu peux partir à Miami ou à la San Francisco, tu vas t'amuser. Ça, c'est peut-être pas lui qui a donné les ordres, mais à ce moment-là de la saison, et croyez-moi, c'est la première fois qu'on le voit aussi énervé en première période, mais on comprenait pas pourquoi. Et moi, je suis en plateau à Canal et je dis, mais c'est étrange, il doit se passer quelque chose, c'est pas possible qu'il ne puisse pas le faire jouer. Bah, il fait jouer Choupo-Moting, le mal qu'il doit avoir en se disant, je fais jouer Choupo-Moting sur le match.
Ah non, moi, je croyais que c'était tactique, en fait. Parce que finalement,
c'est pas tactique. Alors, Marc, non, moi, je pense, où il y a blessure, où il y a eu blessure. Où il y a eu grosse blessure, ou alors il s'est passé quelque chose. Parce que Rabiot, qu'on le veuille ou non, est un élément très important depuis le début de la saison. Et Mbappé accélère et marque à chaque fois.
Ça n'était pas tactique, on le sait.
On l'a su appeler. Mais quelqu'un qui regardait les matchs comme toi, qui savait pas exactement ce qui s'était passé, je pensais que c'était tactique et que c'était d'ailleurs très bien joué. Simplement parce que, Mbappé, du coup, il était préservé tous les longs. Et quand il est rentré, qu'est-ce qui s'est passé? La fougue. Il est rentré avec la force, alors que les côtés de l'Olympique de Marseille, il s'était complètement fatigué.
Je pense que s'il démarre le match, il c'est pareil, hein. À mon avis, à l'accélération, il prend tout le monde.
Nabil, est-ce qu'il a compris le message Kylian Mbappé? Parce que on le voit
assez content sur le banc, et ensuite il rentre,
il marque ce but en 3 minutes et il a l'air de dire
c'est gagnant-gagnant, parce que moi j'ai beaucoup aimé, j'ai écouté hier Habib Bey chez nos confrères de Canal+, je trouve que c'était très bien ce qu'il avait dit, et notamment qu'on reprochait la saison dernière certains, dont je citerai personne, le manque d'autorité d'Emery sur son vestiaire, et quand quelqu'un prend ses responsabilités, parce qu'il a pris ses responsabilités, parce que il peut se mettre en danger, hein,
ah oui, vous savez, sportivement, hein.
Il s'en prend à une des deux superstars de l'équipe, et il s'en prend à une courroie de transmission.
En plus, vous avez vu Kylian Mbappé, il est applaudi par le Vélodrome quand il rentre sur la pelouse, donc c'est vraiment que tout le monde l'attendait.
C'est quand même un désaveu, encore un nid terrible pour l'Olympique de Marseille, qui est obligé d'applaudir les joueurs du Paris Saint-Germain.
Non, mais ils ont applaudi le champion du monde de l'équipe de France.
Alors je vous pose la question, quand l'Italie elle est championne du monde en 2006, est-ce que les supporters de l'Inter de Milan vont applaudir un champion du monde du Milan AC? J'en suis pas sûr. Mais bon, après, c'est sportif, c'est bien, c'est des bonnes valeurs, il faut le féliciter.
Hugo, on a ce Paris Saint-Germain qui a donc encore battu un record, 11 victoires. Pour eux, ils ont établi un nouveau record au niveau de la France, puisque c'était 10 matchs, là ils sont à 11, donc ils ont un nouveau record. Mais au niveau européen, les voilà alignés sur Tottenham, et effectivement qu'ils égalent pour 11 victoires consécutives. Mais qu'est-ce que ça peut signifier, ne serait-ce qu'au niveau européen, c'était un truc qui datait d'il y a 40 ans, 50 ans.
Oh bah oui, même plus de 50 ans, 1960-1961, quelqu'un était né ici, je n'en suis pas certain.
Non, pas moi.
C'est-à-dire... saison 1960-1961, Tottenham qui aligne 11 victoires pour démarrer le championnat anglais. À l'époque, ça avait sûrement du sens, une telle performance, puisque j'étais pas là, mais ça devait avoir du sens d'aller gagner à l'extérieur, sur des pelouses pas simples, dans un climat un peu hostile, notamment en tribune. Là, on a quand même l'impression que c'est un tout petit peu plus simple pour le PSG cette saison.
Clairement.
Et on a un petit peu du mal à vraiment estimer ce, non, c'est pas ce record comme étant une performance. Non,
en fait, là, si on continue à faire à chaque fois à compter toutes les exploits du PSG alors que les niveaux de la Ligue 1, ben, il laisse à décider, c'est sûr qu'on va pas arrêter de compter les exploits. Enfin, et les records. Je pense pas qu'il faudrait, peut-être changer aussi un peu des mentalités et commencer à être, même pour les gens qui aiment les PSG, un peu plus exigeants par rapport à ce qu'on attend de cette équipe, parce que de toute façon, il y a l'objectif aussi en Europe et c'est à ces niveaux qu'ils ont du mal à...
Juste un petit bémol. Rien n'est facile. Faut pas croire que c'est facile pour le PSG. Tout le monde dit, oh, c'est facile. Non, c'est pas facile.
Nabil, mais c'était peut-être un peu plus difficile à l'époque.
C'est ça. Ouais. C'est difficile de comparer les époques. Nabil mettait le doigt sur quelque chose quand l'année dernière, on disait, pour Zidane, c'est super facile avec ses joueurs. Ouais, très bien. Ben, on le voit, l'entraîneur Lopetegui, qui était une référence, qui faisait jouer l'Espagne. Enfin, c'était un jeu de rêve. Et là, qu'est-ce qui se passe avec le Real Madrid, le même entraîneur? Donc, attention, il faut pas dévaloriser ce qu'ils sont en train de faire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Comme on a pu railler à l'époque Lyon quand ils gagnent leur titre. On les met pas en avant. Oh, ben, c'est Lyon. Ce que fait Paris aujourd'hui est énormissime. Et même si on dit, ouais, c'est une équipe bis, en tout cas, ils rentrent sur le terrain et ils gagnent leur match. Et ça, il faut pas minimiser ce qu'ils sont en train de faire.
Pour terminer.
Pour ma part, ils font preuve de professionnalisme. Et ça, c'est à féliciter. Ça veut dire que parfois, quand ils sont suffisants.
On se souvient que parfois, ils avaient raté des matchs bêtement, effectivement.
Après, pour moi, je vais être sincère avec vous, même si je respecte les performances. Ça reste peu significatif, eu égard au niveau de la Ligue 1 qui s'est encore une fois affaissé. Parce que quand des équipes viennent au Parc des Princes, elles sont déjà résignées et que l'objectif de la moitié des joueurs, c'est de récupérer le maillot de Neymar à la mi-temps ou éventuellement de faire un selfie avec lui. Ouais, je ne veux pas relativiser.
Tu as raison, Nabil. Mais
je ne veux pas relativiser, mais il ferait pas ça en Angleterre, il ferait pas ça en Allemagne, et il ferait pas ça en Espagne.
Tu as raison, Nabil, mais le PSG a fait en sorte depuis quelques années qu'il fasse peur. À l'époque, quand tu venais à Marseille dans les 90, tu sais que t'allais en prendre 3 ou 4.
Ouais, mais c'était pas la même équipe de Marseille, Marc.
Je suis d'accord, mais elle fait peur. Elle fait peur, quand tu veux, non. Non, mais je
parle. Elle fait peur peut-être, mais l'exemple qui dit Nabil, moi je l'ai vu par exemple dans mon pays, au Venezuela, que les joueurs rentraient dans les terrains juste pour aller échanger les maillots avec des stars. Et les Venezuela commençaient à se réveiller d'ailleurs comme pays du foot. Les joueurs, ils ont arrêté ça et ils se sont mis à jouer et à se battre sur les terrains, donc je pense que c'est important. Après, au niveau du coach, je pense que sa communication et la façon dont il est en train de porter l'équipe aussi, en train de mettre les points sur les i et changer justement ce qu'on lui critiquait tant, va faire que cette équipe peut aller beaucoup plus loin en Europe, je pense.
Eh bien, on verra. En tout cas, ils auront du mal certainement, ces Parisiens, cette saison. L'OM descend du podium, en tout cas, ils étaient 3e ex aequo, les voilà à la 5e place, et devant, on a une équipe qui est 2e au classement, qui s'appelle Lille.
Ah oui.
Écoutons Christophe Galtier évoquer cette nouvelle victoire des Dogs, un seul but contre Caen, mais finalement un but et la régularité, dit-il.
On n'est pas là à penser que nous, techniciens et joueurs, avec beaucoup de sérieux et d'humilité, qu'on va mettre 3 buts d'écart à chaque fois, c'est pas vrai. C'est difficile de gagner un match, et quand on gagne 1-0 comme ça, on n'a pas concédé de situation à l'adversaire, et qu'on le gagne 1-0 et qu'on le maîtrise, je l'apprécie énormément et je veux féliciter aussi les joueurs pour avoir été très structuré pendant 92 minutes.
Les féliciter, 8 victoires pour 2 défaites, Hugo.
Oui, 4 victoires de rang, c'est la série en cours du LOSC avec encore et toujours un Nicolas Pépé brillant et décisif, passeur décisif ce samedi, 7 buts, 7 passes décisives pour lui en 11 matchs disputés.
Vous voulez Pépé, dire les fils de Bielsa, non je rigole, c'est pas les fils, mais on peut dire, si on peut
il
bien dire...
Il fait partie des recrues de Bielsa.
Bah, si on peut dire une différence entre justement Galtier et Bielsa, c'est que Pépé, c'est complètement une fabrication. En fait, c'est lui qui l'a repéré, qui l'a vu et qui a commencé à lui faire confiance.
Et Bielsa.
Pépé, on l'a vu ranger, on n'a pas entendu Bielsa. On l'a pas attendu parce
c'est quand même sur l'information de Bielsa qu'il a commencé avec leur. Je dis pas que tout est pour Bielsa, mais s'il y a bien une marque encore qui reste, on va dire, dans cette équipe, c'est bien au niveau des Pépé.
Nicolas, moi je le connais bien, c'est un garçon que je suis depuis très longtemps et je pense qu'il y a des chances même qu'il soit favori pour le prix Marc-Vivien Fauré s'il continue sur ce rythme-là, l'international ivoirien. Bielsa effectivement a été le chercher, s'est déplacé, a été en tribune, le regarder à Angers, mais il l'a utilisé, souvenez-vous, la saison dernière, non pas à son poste préférentiel, mais plutôt en pointe. Et quand on en discute aujourd'hui avec Nicolas Pépé, il vous explique quand même que même si ça avait été une séquence qui était compliquée pour lui et pour lui, ça l'a quand même fait progresser devant le but. Donc, voilà, c'est un des grands talents, c'est un des grands talents de ce championnat de France. C'est un Africain, c'est un garçon qui a choisi très tôt la Côte d'Ivoire. Et je pense que s'il avait patienté, il aurait pu peut-être taper aux portes de l'équipe de France. Mais ça, c'est une autre histoire.
Il y a beaucoup de gens qui en rêvent et qui sont à la porte. C'est déjà la fin de ce Radio Foot International. On avait deux grands matchs ce week-end. Ça avait presque toute l'émission. Mais demain, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Merci à tous. Merci aussi à Louis Lafargue et à Julien Magoarou. Appel.